Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette 47e émission de Élève-toi avec les enfants, la première du mois d'avril 2024. Je précise au cas où vous écoutiez en replay ou bien que ce soit une rediffusion. Eh bien, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie pour toutes ces premières réponses qui me sont arrivées à cette question baguette magique qui est « Si vous aviez la possibilité pendant 20 secondes d'apparaître dans la vie de l'adolescent, de la jeune femme, du jeune homme que vous avez été, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous feriez pendant ces 20 secondes ?» Eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer vos réponses, j'ai pas encore préparé l'émission, à emily.roudier23@gmail.com. Et si vous êtes un jeune, une adolescente, ou un jeune, voilà, un lycéen, une lycéenne, eh bien, vous pouvez répondre à cette question baguette magique suivante. Si j'ai la possibilité de faire apparaître dans ma vie pendant 20 secondes mon moi futur, mon moi adulte là, qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Allez, à vos réponses et merci. Je remercie une auditrice de m'avoir envoyé des questions. C'est super, je suis super contente. En plus, bon, elle est contente de l'émission, donc ça c'est bien. Ça me fait plaisir, ça m'aide à continuer. Et eh bien, je vais partir de ces questions, du coup, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous écoutez ces émissions et ça fait naître des questions chez vous, en lien avec votre quotidien, soit à la maison, soit au travail, eh bien vous pouvez m'envoyer vos questions, cette auditrice m'a trouvé sur Instagram, et sinon c'est aussi possible à l'adresse mail que j'ai déjà donnée, et il y a un formulaire de contact aussi sur mon site, qui est sous l'article de cette émission, si vous la trouvez sur internet, puisque tous les replays sont disponibles, ou presque tous, sur radiovassivière.com, à l'onglet émissions, élève-toi avec les enfants. Allez, c'est parti pour cette 47e.
Élève-toi
avec les enfants. Une émission de Emily, ma maman.
Alors c'est parti, cette auditrice, elle nous dit. Et elle dit qu'elle a repris le travail à mi-temps depuis un mois et qu'elle a une fille de 10 mois, bientôt 11, et que 3 fois par semaine, elle amène sa fille chez la nounou. Le matin, la séparation est difficile. Je lui explique simplement ce qu'elle va faire et que je reviendrai la chercher le soir. Puis, nous arrivons devant la porte de sa nounou, on se dit bonjour, on échange joyeusement, puis je confie ma fille à sa nounou. Je lui souhaite une bonne journée et lui dis à tout à l'heure, et pour le moment, elle pleure à chaque fois. Et cette auditrice faisait le parallèle avec un petit garçon dont j'ai parlé, dont je m'occupais à l'école maternelle, dans une autre émission où j'ai déjà parlé de la séparation. Elle continue. « Quand je la confie à Nounou et qu'elle pleure ensuite, je pars assez vite. Mais peut-être faudrait-il accompagner ses pleurs jusqu'au bout et rassurer ? Et lui dire « Oh c'est ok, une part de toi est triste, je suis là. Tu vas passer la journée avec Nounou car je travaille et je reviens ce soir et partir quand l'émotion est évacuée. » La crainte, c'est que ce rituel des larmes et de tristesse l'accompagne tous les matins. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, reparlons séparation. Déjà, bon, c'est tout à fait normal, hein, naturel, qu'un enfant, un bébé de 10 mois, 11 mois, pleure au moment de la séparation. Ça veut dire qu'elle n'est pas déconnectée de ses émotions, tant mieux. Et après, bien sûr, c'est dans le choix judicieux de la nounou qui va pouvoir accueillir les émotions derrière que va se jouer beaucoup de choses, hein. Et est-ce qu'il faut rester? Eh bien, le truc, c'est que si la maman reste, eh bien, l'enfant n'est plus dans l'état de la séparation. Donc, il ne peut plus pleurer la séparation. Ou sinon, il faut que la maman s'en aille un pas par un pas en reculant et toujours trouver cette limite où l'enfant continue de pleurer. Voilà. Il est possible que l'enfant s'arrête de pleurer rapidement parce qu'elle n'est pas suffisamment en sécurité affective avec l'autre personne et qu'elle ne peut pas continuer. La connexion n'est pas établie, elle ne peut pas continuer de décharger. Si la connexion est établie et que les pleurs durent peu, eh bien c'est peut-être qu'il y a juste ça à pleurer. Voilà. Donc une solution à essayer serait de se reculer petit à petit. Et bien sûr, c'est tout à fait une bonne idée, je pense, hein, de dire, bah oui, c'est ok qu'une partie de toi ait pas envie. Alors peut-être pas soit triste parce qu'on vient faire un programme là, mais j'entends ma fille que tu aimerais que nous passions la journée ensemble. Et là, je fais le choix de reprendre mon travail et j'ai trouvé quelqu'un de confiance à qui te confier. Et voilà, confiance confiée. Et donc reculer un pas par un pas, petit à petit, pour qu'elle sente qu'en effet la séparation est en train de se passer et qu'elle soit encore suffisamment en sécurité parce que la maman est toujours là pour permettre le pleur. Voilà, c'est à chercher dans tout ça. Eh bien, ça me donne envie de vous lire le chapitre qui parle de la séparation dans toujours ce super livre dont je vous parle à chaque fois, ou presque. Il s'appelle « Écoute » de Patty Whipler et Tosha Shore aux éditions J.C. Lattès. Et je répète une fois de plus que ce livre est écrit à partir d'une forte expérience de nombreuses années auprès des enfants. Voilà, voilà. Il y a 5 outils principaux, j'en parle dans pas mal de mes émissions. Et moi, je complète tout ça avec d'autres choses dont j'ai déjà un petit peu parlé ici, plus ou moins, et dont je pourrais peut-être parler à l'avenir. Et en tout cas, dont je parle dans ma conférence qui s'appelle « Élève-toi avec les enfants » et que je peux venir faire, une conférence un petit peu théâtralisée, gesticulée, que je peux venir jouer pour vous, votre association, votre groupe, contre au moins le défraiement des kilomètres. Voilà. Et un petit peu plus au chapeau, si c'est possible. Pour tout ça, vous avez toutes mes coordonnées sous l'émission. Allez, c'est parti, vous êtes toujours à l'écoute de...
Radio Vassivière.
Et c'est la 47e.
Avec les enfants.
Chapitre 10, vers des séparations plus agréables. Ce que tu as besoin de savoir. Je n'ai encore jamais rencontré de parent qui n'ait eu aucune difficulté à accompagner son enfant lors des séparations. L'un de ces scénarios te parle-t-il ? Tu as un rendez-vous de travail important à 9h, il est 8h30 et tu es à l'école, mais au lieu de te dire au revoir d'un geste de la main, ta fille de 3 ans s'accroche à ta jambe et hurle comme si tu l'avais jetée dans la fosse aux lions. Ou bien, tu sors d'une journée éprouvante au bureau, puis tu as fait le taxi pour que tes enfants assistent à leurs diverses activités sportives, puis tu t'es occupé du dîner. Ton fils aîné te signale qu'il a besoin d'un coup de main pour ses devoirs. Tu veux coucher ton petit dernier de 4 ans avec une histoire courte et un bisou. Une heure plus tard, tu quittes sa chambre trop épuisée pour aider ton fils aîné avec ses devoirs. Ou bien encore, tu as enfin trouvé une baby-sitteuse que tes enfants apprécient beaucoup. Avec ton conjoint, vous préparez à sortir au restaurant, puis au cinéma. La baby-sitteuse arrive et tout le monde est content de la voir. Mais quand tu embrasses ton enfant de 2 ans pour lui dire au revoir, c'est les grandes eaux. Il te supplie de l'emmener avec vous. Un jour ou l'autre, tout enfant affronte le grand défi de la séparation. Nous faisons de mieux que nous pouvons pour traverser ces moments douloureux. Nous soudoyons nos enfants en leur promettant de petits cadeaux. Nous nous allongeons près d'eux pendant qu'ils mettent des heures à s'endormir. Puis nous nous glissons hors de leur lit épuisés. Parce que nous ne supportons pas de voir nos tout-petits le cœur brisé. Nous annulons nos sorties au détriment de nos relations. Pourtant, aucune de ces stratégies ne les aide à surmonter leur peur. Le lendemain, dire au revoir bonne nuit ou je reviens dans quelques heures déclenche la même bataille. L'anxiété de séparation est tout à fait compréhensible parce que nos tout-petits dépendent intégralement de nous. Nous sommes leur refuge, du fait de leur manque d'expérience. Même si nous restons très proches d'eux physiquement, fermer la porte des toilettes entre eux et nous suffit à les insécuriser. Nous savons que nous allons bientôt sortir des toilettes, mais au début de leur vie, ils ne peuvent pas se projeter 2 minutes dans le futur. De nombreux parents s'efforcent de protéger leurs enfants de la souffrance d'une séparation, mais elle est aussi commune qu'un genou écorché. Les mamans et les papas parlent au téléphone, ils font les courses, ils doivent aller travailler. Parfois, ils ne peuvent pas être présents à cause d'une maladie ou d'un événement stressant. Pour certains enfants, l'entrée à la crèche ou à l'école maternelle est un choc. D'autres, et ils sont nombreux, ont aussi à s'adapter au divorce de leurs parents, à un changement d'école ou à un déménagement. D'autres encore vivent la mort d'un être cher. Malgré nos efforts, un jour ou l'autre, tout enfant ressent la douleur d'une séparation qui ébranle son sentiment de sécurité. Si l'enfant n'obtient pas le soutien dont elle a besoin pour pleurer jusqu'à ce qu'elle guérisse de cette douleur, les complications surgissent, elle ensevelit en elle ses peurs, ce qui peut lui poser problème par la suite. Même une séparation négligeable pour nous, comme le coucher pour une sieste, peut provoquer une émotion surdimensionnée à cause de ce passé enfoui. Par exemple, quelques semaines après le décès d'un grand-père, tu seras peut-être effaré de voir ton fils courir derrière ta voiture. Il a faussé compagnie à la baby-sitteuse et il te poursuit dans la rue de crainte que tu meurs au supermarché. Quand la séparation effraie profondément ton enfant, il est possible qu'une blessure très précoce soit à la racine de son effroi. Quelles sont les circonstances de sa naissance, par exemple ? Depuis la minute où elle est née, elle a besoin d'être accueillie, bercée et protégée par ceux qui l'aiment. Tout ce qui s'écarte de cette expérience relève d'un bouleversement pour elle. Quand un nouveau-né traverse une naissance difficile, son système réagit en le mettant sous alerte. S'il doit être éloigné de sa mère pour n'importe quelle raison, son système nerveux est averti du danger. Une seule séparation non voulue, petite ou grande, peut le laisser avec des émotions qui le préparent des mois ou même des années plus tard à craindre tes départs. Heureusement, quelle que soit l'intensité de son anxiété de séparation, tu peux l'aider à la dépasser. Au fil des années, l'enfant rencontrera forcément de nouvelles situations qui déclencheront ses peurs dont elle n'a pas pu guérir auparavant. Alors là, je m'arrête, un petit mot, un petit commentaire de ma part, même si j'essaye plutôt de chercher comment me taire. Le bébé, c'est surtout pour ça qu'il a besoin d'être entendu dans ses pleurs, hein, pour pouvoir pleurer la grossesse, la naissance, les premières séparations. Voilà, c'est bien surtout pour cette raison-là qu'il a besoin qu'on l'écoute pleurer et pas qu'on essaie à tout prix de l'empêcher de pleurer. Je referme la parenthèse. Peut-être piquera-t-elle des crises violentes la semaine précédant son entrée au CP, puis de nouveau 3 années plus tard, au moment de partir chez ses grands-parents. Les émotions profondes affleurent de façon récurrente. Quand tu utiliseras les outils d'écoute, tu constateras des progrès après chaque orage émotionnel. Les crises qui surgissent au moment des séparations sont en fait des occasions déguisées de guérison pour ton enfant. Tandis que tu restes à l'écouter, elle se videra de ses émotions douloureuses et se remplira de ton assurance. Son fardeau s'allégera et elle bénéficiera d'une meilleure confiance. Et toi aussi. Voilà, donc c'est bien encore une chose. Voilà. Nous pensons que si le bébé pleure, il est triste. Hein? Alors que si le bébé pleure en étant accompagné avec amour et écouté, il se décharge de sa tristesse. C'est complètement l'inverse en fait. J'ai bien dit si, il est écouté avec amour et compassion. S'il est laissé seul, bien sûr que non. S'il est avec des adultes qui sont en train de lui parler, qui mentalisent tout, ou bien qui sont encore pire en train de lui dire des mots pas sympas, ça marche pas non plus. Je continue. Comment aborder l'anxiété de séparation avec les outils d'écoute? La première étape vers des séparations en toute confiance est de s'attendre à ce qu'elles soient émotionnellement chargées. Tu es prête à devenir un agent du changement quand tu anticipes la crise inévitable. La deuxième étape est de comprendre que le bouleversement de ton enfant reflète une peur sous-jacente et non un désir délibéré de te gâcher la vie. As-tu réfléchi aux sources possibles de sa peur? Si elle s'accroche à toi à l'heure du coucher, tu peux passer en revue les séparations précédentes qu'elle rejoue sans le savoir. Si après avoir insisté longuement pour que tu l'inscrives au cours de gym, elle ne veut plus y aller, peux-tu te souvenir d'une expérience difficile qu'elle aurait connue par le passé avec un groupe d'enfants? Tu réussiras sans doute à identifier quelques expériences difficiles qui pourraient contribuer à son anxiété de séparation. Sinon, ce n'est pas grave. Elle se débarrassera de ses peurs sans que ni elle ni toi ne sachiez d'où elles proviennent. Et oui, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout mentaliser. La troisième étape est de t'occuper de tes propres peurs et inquiétudes. Tandis que ton enfant te montre à quel point elle se sent menacée par une séparation, tes émotions risquent de se déclencher. Tu pourrais toi aussi douter de sa sécurité. Elle flairera alors ta préoccupation, même si tu ne lui en dis pas un mot. Les choses s'arrangeront quand tu obtiendras le soutien dont tu as besoin pour te décharger de tes émotions. Te souviens-tu de ton ressenti la dernière fois que tu as laissé ton enfant en pleurs pour arriver à l'heure au travail? Ou comment tu t'es sentie lorsqu'elle est passée de son lit de bébé à un lit de grand? Te souviens-tu de moments où ta mère t'a manqué quand tu étais petite et ton père? Les partenariats d'écoute ont fait leurs preuves pour identifier et évacuer les émotions associées à des souvenirs de ce type. Dans les affres d'une séparation difficile, interposer une limite et rester écouté sont tes deux outils de prédilection. Il est important d'informer ton enfant à l'avance d'une séparation. Elle a besoin de savoir où tu vas, quand tu rentreras et qui reste avec elle. Si elle pleure à cette annonce, c'est le moment de rester écouté. Elle a déjà mis en route le processus de guérison. Et oui, ça c'est déjà une astuce, hein. Avant de partir, voilà, quand on prend le temps d'annoncer hein, qu'on va partir et ce qui va se passer. Si on se prévoit un quart d'heure à ce moment-là, par exemple, il y a des chances que si l'enfant, ça le fait pleurer rien que de savoir ça, eh bien on va pouvoir rester écouté. Et si ça ne fait pas pleurer, ben, on pourra prendre ce temps-là pour lui proposer un temps spécial. En cas de peur profondément enracinée, tu peux commencer à lui dire au revoir une bonne heure avant la séparation effective. Ah oui, tu vois, moi j'ai dit un quart d'heure, là c'est dit carrément une heure. Tu deviens alors le pilier auquel elle s'accroche pendant qu'elle travaille à exprimer son chagrin. Tout simplement, tu lui annonces ton départ, puis tu restes et tu l'écoutes. Quand ses larmes s'espacent, tu lui dis à nouveau « Oh mon cœur, je vais partir, je reviendrai, je reviens toujours ». Auprès de toi, l'intensité de son chagrin augmentera en même temps qu'elle se débarrassera encore davantage de sa peur. À un certain moment, quand elle aura fini de verser les larmes qu'elle avait besoin de verser, elle sera capable de te dire au revoir et d'apprécier sa journée auprès de l'adulte de confiance que tu auras choisi pour elle. Donc là, on n'est pas sur le cas d'un bébé de 10 mois, hein, c'est peu probable que juste à l'annonce, elle se mette à pleurer. Tu utilises en même temps les outils interposer une limite et rester écouté, mais tu allonges le processus dans le temps de façon à ce qu'au moment où tu montres la limite, tu n'aies rien à faire d'autre que de rester écouté. Le système de ton enfant a alors tout le temps nécessaire pour se décharger de ses fardeaux. Elle se concentre sur son émotion plutôt que de chercher à comprendre un changement rapide de situation. Le facteur clé de sa guérison est ta confiance dans le fait qu'elle est OK pendant qu'elle pleure. Tu auras besoin de garder à l'esprit l'idée qu'elle n'a pas le cœur brisé d'un pauvre petit enfant abandonné. Elle est forte et elle a la chance de pouvoir se décharger d'émotions emmagasinées de la façon la plus sécurisante possible, avec toi à ses côtés. Ouais, ou avec une nounou de confiance à ses côtés, ou avec une instite de confiance à ses côtés, ou une éducatrice, une animatrice de confiance à ses côtés, ça marche aussi. Alors je continue, voici un témoignage. L'école et la crèche, ils s'accrochent à ta jambe au moment de la séparation. Il y a quelques jours, je suis arrivée en retard pour déposer mon fils à sa nouvelle école maternelle. Quand nous sommes entrés dans la classe, les élèves étaient déjà sortis dans le hall pour une séance de sport. L'assistante de la maîtresse nous a accueillis et m'a proposé d'emmener mon fils rejoindre les autres. Il s'est alors accroché à moi. Il n'était pas content d'être le seul enfant dans la pièce. J'ai demandé à l'assistante de me laisser seule quelques minutes avec lui et je lui ai dit que je l'amènerais moi-même aux activités sportives quand il serait prêt. Puis j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai montré le minuteur à mon fils. Je lui ai dit « Que dirais-tu d'un temps particulier de 5 minutes ?» Il a acquiescé, il s'est calmé, il a attrapé ma main et m'a fait visiter sa nouvelle salle de classe. Il m'a indiqué les jouets qu'il préférait et les activités qu'il appréciait. C'était comme un mini-tour. Mon minuteur a sonné. Le temps particulier est terminé, ai-je dit. Je lui ai demandé s'il aimerait me montrer l'endroit où se déroulait le sport. Il a attrapé ma main et nous avons marché vers le hall. Il avait l'air nettement plus heureux et en lien avec moi. Moi aussi, je me sentais mieux. Le soir, j'étais encore un peu anxieuse au moment de revenir le chercher, ne sachant pas s'il avait passé une bonne journée ou pas. Mais tout avait l'air d'aller bien et on m'a rapporté qu'il avait eu une super journée. Explication, comment ça marche ? Les transitions sont souvent difficiles pour les enfants et nous, les parents, n'améliorons pas les choses en étant toujours pressés. Si nous prenons notre temps comme ce parent, utiliser un outil d'écoute peut aider notre enfant à vivre ses transitions plus sereinement. Le temps particulier Le temps particulier a offert à ce garçon l'occasion de rester en lien avec son père. Oui, j'ai dit anxieuse, mais c'était anxieux. Pendant qu'il explorait la salle de classe, il a ainsi pu digérer la transition entre la maison et l'école. Et à la fin des 5 minutes, quand le minuteur a sonné, il était prêt et a dit au revoir de la main à son père avec un grand sourire. Voilà, des fois, c'est le temps particulier qui peut aider. Un autre exemple, elle est craintive à l'arrivée à l'école. Quand Maria avait environ 5 ans, tous les matins, elle devenait craintive au moment où nous approchions de l'école. Elle connaissait parfaitement tous les adultes là-bas et ils étaient tous patients et chaleureux avec elle. Elle se détendait peu de temps après son arrivée, mais elle commençait ses journées timidement, sans regarder quoi que ce soit, sans répondre à ceux qui lui disaient bonjour à la porte. J'ai mis en place la stratégie que m'a suggérée ma formatrice Hand in Hand. Tous les matins, j'ai fait semblant d'être timide, de ne pas avoir envie d'entrer dans l'établissement. J'avançais vers la porte de l'école, tenant Maria par la main, puis je faisais demi-tour et je partais en courant. Si jamais je pensais avoir vu quelqu'un nous regarder par la fenêtre, alors que nous approchions, je poussais un petit cri. Je n'arrêtais pas de tirer Maria en arrière pour la ramener vers la voiture. Je lui répétais que je ne voulais pas y aller. Maria adorait ce jeu. Elle me tenait patiemment et gentiment la main et m'encourageait pendant que je marchais vers sa salle de classe. Elle riait et souriait en jouant le jeu. Au bout d'un certain temps, elle a cessé de se montrer craintive au début de sa journée. Explication, comment ça marche ? Les enfants ne sont pas timides par nature. Leur timidité est le symptôme d'autres émotions, comme la peur, qui les empêche de vivre la vie trépidante des enfants. Cette maman a reconnu que les peurs de sa fille la tenaient en retrait et a utilisé le jeu écoute pour l'aider à se débarrasser de sa timidité par le rire et entrer avec davantage de confiance dans la salle de classe tous les matins. Oui, alors ce qui est important, hein, si on choisit un jeu, c'est de ne pas se moquer. Hein. Faut pas, à aucun moment, il faut que l'enfant ait l'impression qu'on se moque de lui. Hein. Vraiment, il faut être tout en amour. Autre témoignage, qu'on sait pour toi que c'est dur. Ma fille entrait en première année de maternelle et je pensais qu'elle s'y habituerait, mais j'avais des inquiétudes malgré tout. L'école n'était pas mon premier choix, j'aurais préféré l'instruire à la maison. Cela me semblait injuste parce que son grand frère n'était pas allé en maternelle. Je craignais que ma fille ne perde un peu de sa fougue et de son exubérance et qu'elle ne devienne trop docile. J'ai parlé de mes inquiétudes lors de mon partenariat d'écoute. La première fois, ma partenaire d'écoute m'a dit avec une petite lueur dans l'œil « Ce n'est pas comme si tu l'envoyais en pension ?» J'ai ri. Elle venait de m'aider à me souvenir que j'avais soigneusement choisi un environnement sécurisant et confortable pour ma fille. Dans une autre séance, avec une autre partenaire d'écoute, j'ai pleuré parce que je sentais ma fille trop petite et que je ne voulais pas que mon bébé parte de la maison. Ma partenaire d'écoute m'a demandé de formuler le pire qui pourrait lui arriver, ce qui m'a donné l'occasion de me libérer de certaines peurs. Je ne savais pas si elle serait OK sans moi. L'idée de ne plus avoir la main sur une partie de sa vie, de ne plus pouvoir la protéger pendant qu'elle serait à l'école, me semblait énorme. L'une des choses que j'aime chez ma fille est qu'elle connaît ses besoins et sait les exprimer. Je craignais que cette force ne soit réduite au silence. Ma partenaire d'écoute m'a affirmé qu'elle pouvait aussi s'épanouir à l'école. Cela m'a poussée à me rappeler ma propre expérience en maternelle et quelques souvenirs éprouvants. Après m'en être déchargée, j'ai senti que je pouvais aborder l'entrée en maternelle de ma fille depuis un endroit plus positif et plus équilibré. La première semaine, mon mari ou moi sommes restés auprès de notre fille un moment chaque matin. Le jour où c'est moi qui l'ai déposée, j'ai eu besoin d'envoyer une demande pour une séance d'écoute en urgence. L'une de mes partenaires d'écoute a réagi et m'a offert son attention. Je lui ai expliqué ma déception à la suite de ma première rencontre avec la maîtresse. J'ai beaucoup juré, j'ai fait comme si ma partenaire était la maîtresse, je lui ai dit le fond de mes pensées, tout ce que de toute évidence il valait mieux que je garde pour moi dans la vraie vie. J'ai pleuré parce que ma fille n'était plus avec moi à la maison. Mon mari et moi étions sur le point de renoncer à toute cette idée d'école maternelle, mais après avoir libéré une si grande partie de mes tensions émotionnelles, j'ai pu réfléchir plus posément. J'ai compris que nos inquiétudes étaient sans doute infondées. Nous savions que notre fille avait du courage, de la ressource, qu'elle était solide et nous voulions qu'elle gagne en confiance en vivant cette rentrée des classes jusqu'au bout. Le jour suivant, mon mari l'a accompagnée à l'école, mais s'est senti vraiment mal au moment de la laisser. Il lui a donné le choix entre retourner à la maison avec lui ou rester à l'école jusqu'au déjeuner. Elle a décidé de rester. Quand je suis arrivée à l'école, je l'ai regardée un instant avant qu'elle ne me remarque. Elle était égale à elle-même et n'avait rien perdu de son exubérance. J'ai ainsi appris que ma fille avait une base de sécurité bien différente de la mienne à son âge et qu'elle expérimentait le monde à sa façon. J'ai compris l'intérêt de laisser un enfant augmenter sa zone de confort et développer sa confiance dans le processus. Sa transition s'est opérée en douceur. D'autres enfants pleurent et s'accrochent aux jambes de leurs parents quand ils partent, même s'ils ont déjà vécu en communauté. Notre fille s'engage avec bonheur dans les jeux, elle a la souplesse de s'adapter à des règles différentes de celles auxquelles elle est habituée à la maison. Toutes ces inquiétudes, semble-t-il, étaient les nôtres, pas les siennes. Parfois les enfants vivent bien la séparation et ce sont nos craintes qui placent des obstacles sur leur chemin. Ici, cette mère a utilisé ses partenariats d'écoute pour creuser profondément en elle et exprimer ses nombreuses peurs et inquiétudes au sujet de sa séparation avec sa fille. Résultat, ses pensées se sont éclaircies et elle a réussi à faire la différence entre ses propres émotions et celles de sa fille, et à comprendre que son enfant est un individu à part entière. C'est elle qui l'a trouvée trop petite pour quitter la maison. Sa fille était prête à enfiler ses chaussures et à sortir du nid. Si cette mère avait cédé à ses inquiétudes, cette petite n'aurait pas eu la joie et l'occasion de grandir, qu'offre un environnement scolaire sécurisé et attentionné, un environnement qui ne lui inspirait aucune crainte. Alors, je reviens à la question de départ sur le bébé. Donc, voilà, les 5 outils que l'on voit là. Donc, ça peut être déjà donner un temps particulier au bébé. À 10 mois, on peut tout à fait donner un temps particulier avant de partir. Ensuite, annoncer que l'on va partir. Et là, bon, comme j'ai dit, avec un bébé, c'est peu probable que ça déclenche des pleurs, mais un petit peu plus grand, ça peut. Donc là, on reste écouté si rien que l'annonce déclenche les pleurs. Et puis, on y va. Et puis, on s'en va, on dit que ça y est, on s'en va, on met la limite, ça y est, on s'en va. Et si là, ça déclenche des pleurs et qu'on sent que c'est le bon moment pour reculer petit à petit, alors on recule petit à petit jusqu'à ce que l'enfant ait complètement pleuré, qu'elle puisse passer autre chose. Et tout cela, bien sûr, est possible si on a choisi quelqu'un de confiance à qui confier notre enfant. Et ça, je sais que c'est difficile. Donc le temps particulier avant, rester écouté s'il y a des pleurs, mettre une limite en partant vraiment. Il ne s'agit pas de dire non, en fait j'annule tout. Alors là il y a un bémol à ça. Si jamais on sent qu'en effet il y a un problème, et c'est important là, il faut rester sur son intuition. Rester sur son intuition, développer son intuition, parce que est-ce que c'est l'émotion ou l'intuition? Mais si l'intuition dit non, ça va pas, je peux pas laisser ma fille là maintenant, et c'est important d'écouter ça aussi. Donc développer son intuition, ça c'est encore un autre outil qui vient compléter tout le reste. Allez, j'ai beaucoup parlé, tiens.
Musique maintenant.
Je vous ai lu la semaine dernière une histoire du livre qui s'appelle « Des trésors pour la vie ». Il y avait une première chanson et là je vais vous faire écouter une deuxième chanson de cet album qui s'appelle « L'huître perlière ».
Caché parmi les algues, je m'accroche aux rochers, caressé par les vagues, vivre de liberté. Liberté, liberté, liberté. La 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 la. Vivre de liberté. mange devient perle nacrée. Perle nacrée, perle nacrée, perle nacrée. La 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 la. Devient perle nacrée. Je suis huître perlière, avec chaque malheur, j'ai le pouvoir de faire un trésor dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. La 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 la. Un trésor dans mon cœur.
C'était sans transition une chanson de Claire Chantepère, l'huître perlière, des trésors pour la vie. Et ben, je vais vous raconter cette histoire. Donc c'est chez les éditions Prosveta, le lien est sous l'émission, les images sont absolument magnifiques. L'huître perlière. La lune ronde un soir de printemps m'a conté cette histoire. Une jolie petite huître vivait sous la mer. Jolie ? De l'extérieur, sa coquille ressemble à un caillou gris. Mais à l'intérieur, tout est lisse et doux comme un nid de satin blanc. Fixée sur un rocher, la petite huître grandit au milieu des algues et des anémones. Autour d'elle circulent des poissons multicolores, comme le monde sous-marin est beau. Tout le jour, elle ouvre grand ses yeux et sa coquille. Attention, la mer contient aussi des choses désagréables. Tu dois apprendre à t'ouvrir et à te fermer quand il le faut, lui disent les huîtres plus âgées. Mais la petite huître n'écoute pas tellement leurs conseils. Soudain, il se produit un tourbillon et hop, voici. Entré dans sa coquille, un gros grain de sable qui pique. Il trouve là un petit creux, il s'y installe et se sentant à son aise, décide d'y rester. La petite huître n'est pas contente. « Aïe, ça me gratte, aïe, ça me démange, il m'énerve celui-là. »« Mais tu l'as laissé entrer, » murmurent ses amis les huîtres. « Hélas, » dit-elle, « maintenant comment le faire partir ?» La petite huître ne peut pas se bagarrer, elle n'a ni pied ni main pour attraper le grain de sable trop bien logé et le mettre dehors. Elle a beau s'agiter, se tortiller, onduler, frétiller. Dans sa coque blanche, ce vilain grain de sable reste là et continue à la picoter. Plusieurs lunes ont passé, l'huître a grandi, le grain de sable lui fait vraiment mal. Il faut que je trouve une solution. L'huître a fermé les yeux et s'est mise à réfléchir. Soudain, il lui vient une inspiration. Elle commence à travailler, elle travaille, elle travaille. Comment ? Que fait-elle ? Personne ne le sait. Elle travaille en secret. Les saisons passent. Abritée dans sa coquille, sous la mer, tantôt assombrie par les tempêtes, tantôt limpide au soleil, elle continue à travailler, silencieusement, patiemment, obstinément. Qui devinera ce qu'elle est en train de faire? Voulez-vous le savoir? Pour se protéger de ce grain de sable douloureux, l'huître, avec patience, l'avait enveloppée d'une matière blanche, lisse, très douce, qu'à chaque instant elle avait trouvée en elle-même. Par son travail, la petite huître avait réussi à en faire une splendide perle de nacre. Et un beau jour, lorsqu'elle s'ouvrit, les coquillages, les anémones, les poissons, les étoiles de mer, tous s'exclamèrent. « Quelle merveille ! Quelle merveille ! Mais quelle merveille ! » En voyant la magnifique perle de nacre brillante dans le soleil. En me racontant cette histoire, la lune ronde là-haut dans le ciel souriait mystérieusement. Une histoire de Claire Chanteperle dans le livre des trésors pour la vie. Évidemment, les histoires pour les enfants ne sont pas que des histoires pour les enfants. Une vraie bonne histoire pour les enfants est une histoire pour les adultes. Une vraie bonne histoire pour les enfants a plusieurs niveaux de lecture. Et une vraie bonne histoire pour les enfants, on peut l'écouter plein de fois et il va se passer des choses différentes à chaque fois. Vous savez, le petit prince et son « l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur ». Combien de fois ça va venir être réactualisé et prendre un nouveau sens dans notre vie. Voilà. Eh bien, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. C'était la 47e.
Avec les enfants.
Sur
Radio Vassivière.
Et c'est une
émission de Émilie, ma maman.
Voilà. La prochaine fois, je crois que je vous parlerai de travailler ou bien être en couple avec des gens qui ne font pas comme on voudrait. Si vous avez des questions à ce sujet, eh bien, allez-y, envoyez-les-moi. Je vous souhaite une magnifique journée, un très beau printemps, des fleurs par milliers, des senteurs magnifiques et des papillons pleins vos vies. À bientôt.